Simone Mousset, c'était lors de l'été des hivernales, au mois de juillet 2021. J'avais eu l'occasion de découvrir la passion d'Andrea. Et là, vous revenez en plein hiver, toujours invité par les hivernales. Et dans 2 jours, on va découvrir l'empire d'un imaginaire faunesque. C'est le titre de votre nouvelle création. Alors, faune, tout de suite, on pense au fameux faune de Nijinsky. Est-ce qu'il y a un lien, justement, entre ces faunes?
Je suis beaucoup inspirée par les ballets russes, parce qu'ils travaillent avec les différentes disciplines, toujours dans un spectacle, et c'est ce qui m'a toujours inspirée. Et le faune de Nijinsky, il parle de quelque chose qui était tabou à l'époque, non? Et mes faunes à moi, ils parlent aussi d'une certaine manière avec notre relation de quelque chose qui ne nous est pas connu ou qui est un peu incertain ou même dangereux. Donc en fait, je me suis plutôt référée au dieu Pan, qui est un peu l'origine de tous ces êtres mythiques comme le faune, qui était le dieu de notre relation au sauvage. Donc il n'était pas le dieu du sauvage, mais le dieu de notre relation au sauvage, et au sauvage en nous et à l'inconnu en nous, et la complexité de nos émotions et de nos désirs et les contradictions que tout le monde a en soi. Donc en ce sens-là, le faune, il représente tout ça pour moi, et je le vois aussi dans l'après-midi d'un faune de Nijinsky.
Vous venez d'utiliser l'adjectif incertain. L'incertitude, j'ai l'impression que c'est un mot, un état, un sentiment qui habite tout votre travail et toutes vos créations. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'incertitude?
Je pense que c'est parce que moi-même, j'ai une telle relation intense à l'incertitude. Je suis une personne très incertaine et hésitante. Dans la création, l'incertitude est bien sûr encore plus présente. Donc, c'est une torture de me mettre dans la position de devoir faire une pièce, en quelque sorte. Mais je trouve qu'on voit toujours l'incertitude comme une chose négative ou une chose à éviter, bien que notre vie est complètement traversée par l'incertitude. Et on essaye de l'écarter, mais en fait, je me suis posé la question, est-ce que je peux embrasser cette position de l'incertitude comme une position philosophique forte? Et si on recherchait cette place de l'incertitude dans sa vie un peu plus, et si on l'habitait avec plus d'aisance et plus d'acceptance, c'est ça un peu l'univers, que la relation à l'incertitude que je travaille dans cette pièce-ci.
Est-ce qu'il y a de l'incertitude dans les représentations des propositions que vous donnez à voir au public? C'est-à-dire, que, est-ce qu'il y a des moments où vous laissez une place, où vos interprètes laissent la place à l'inattendu, à l'improvisation presque d'une certaine manière?
Oui, alors dans La Passion d'Andrea 2, il y a toute une partie de plus de 20 minutes qui est complètement... Il y a un score, mais elle est improvisée, et elle est improvisée en fonction avec le public. Donc le public, comme vous l'avez vu d'ailleurs, donc il doit sauver les 3 Andrea, ils sont dans 3 groupes, et là, en fonction de comment le public réagit, la dynamique de la pièce et en fait le matériel qui va être performé va changer. Et donc les danseurs doivent toujours être complètement attentifs à tout ce qui se passe et réagir dans la seconde. Et avec Empire of a Faun Imaginary, c'est peut-être moins l'improvisation. Bien sûr, il y a aussi dans le travail vocal, à la fin, une grande partie improvisée. Et d'ailleurs aussi dans La Passion d'Andrea 2. Je trouve l'incertitude là, c'est parce que les interprètes ne sont pas des chanteurs professionnels. Et donc, ils ont dû travailler le travail avec la voix à partir de zéro. Et c'est là où on a toujours la fragilité.
Dans La Passion d'Andrea 2, d'abord, on avait affaire à une pièce entièrement masculine et les personnages parlaient. Tandis que là, il y a du chant.
Alors, c'était d'un côté un défi pour moi-même de me dire, si je n'ai pas le droit d'utiliser du texte, qu'est-ce qui va sortir de moi? Comment je vais communiquer si je me défends d'utiliser beaucoup de mots? Et je voulais aussi, après La Passion d'Andrea 2, qui a porté déjà en elle un peu de chant, je voulais pousser plus loin le travail avec le chant pour moi-même, pour me confronter à ce terrain inconnu de la composition vocale, mais aussi pour les interprètes, de voir jusqu'où peut-on aller et va-t-il leur sortir quelque chose d'excellent ou est-ce que ça va être une déception pour tous? Mais non, je pense qu'on est vraiment émerveillés tous par ce dont on est capable. Je pense que ça vient vraiment du défi chorégraphique de ne pas utiliser du texte et de savoir de quel support ai-je besoin pour pousser plus loin le chant. Je travaille avec un compositeur vocal qui est aussi coach, qui nous a vraiment fait des entraînements à profondeur pour la voix. Et maintenant, les danseurs, après un an de répétition, ils sont tellement à l'aise avec leur voix, ils ont appris beaucoup et ils sont beaucoup plus forts. Donc on a vu augmenter leur capacité vocale au cours de l'année. Parce que je pense que les danseurs qui travaillent dans ma création, bien sûr, ils travaillent aussi dans d'autres créations et ils font leur propre création. Et je pense toujours que de travailler avec un chorégraphe est aussi, non un entraînement, mais quelque chose quand même, un développement professionnel. Et je trouve ça simplement intéressant dans la profession de donner aux danseurs plus de capacités vocales dans tous les sens, et politiques et artistiques.
Dans la passion d'Andrea II, il y avait un univers, une scénographie, un univers plastique, mm-hmm. avec ces gouttes géantes, ces gros sacs. Mm-hmm. qui tombait, semble-t-il, d'une manière assez aléatoire sur le plateau. Je retrouve un peu les mêmes masses, mais cette fois-ci au sol, dans votre nouvelle création.
Oui, j'aime beaucoup imaginer des mondes surréels, et je pense que chaque création, je me dis, ah oui, quelle texture va avoir ce monde ? Et la scénographie en fait une grande partie. Pour la passion d'Andrea II, c'était un monde qui était en train de s'écrouler. Donc c'est pour ça qu'on avait les sacs qui tombaient du ciel. Et je pense que Empire of an Imaginary, c'est plus comme un paysage, mais dans lequel tombent les danseurs. Donc les danseurs tombent dans le paysage, mais ils se transforment aussi et ils se mélangent, et en se mélangeant se transforment avec le paysage. Donc en fait, l'humain et le paysage se retrouvent un peu à pied égal. Et c'est aussi ce que je voulais dire un peu, qu'on se retrouve face à la nature peut-être, hein, ou aussi à nos émotions, notre paysage émotionnel, et on s'y perd. Et il n'y a pas que les humains sont plus importants ou plus puissants. Tandis que dans Andrea, c'était toujours le désir d'être plus puissant que son environnement qui comptait.
Vous êtes d'origine luxembourgeoise, mm-hmm. mais vous avez fait l'essentiel de votre formation et de votre carrière à Londres. Vous vivez à Londres. Dans les spectacles à Londres, on voit souvent un mélange de genres beaucoup plus fréquent. C'est presque naturel d'une certaine manière. C'est presque dans l'ADN des artistes. Est-ce que c'est cet ADN que vous retransmettez dans vos spectacles ?
Cette irrévérence, peut-être. C'est intéressant parce que j'ai la même sensation qu'en France, c'est très casé et cadré, peut-être, pour certains artistes. Je découvre, peut-être. Il y a une fois une régisseuse de théâtre qui m'avait dit « Ah oui, dans le théâtre, on est encore plus lié à des traditions. » Et en danse, il y a aussi des traditions, mais je pense que oui, il y a une telle liberté en même temps qui n'existe peut-être pas de telle manière dans d'autres disciplines parce qu'elles sont beaucoup plus vieilles, peut-être. Là, on a le ballet classique, mais nous, on est dans la danse contemporaine et la performance. J'ai l'impression qu'on peut se permettre tout. Ça m'émerveille aussi, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est intéressant qu'en France, on met beaucoup d'accent sur les traditions en danse, mais peut-être qu'en Angleterre, on met un peu moins.
Finalement, il y a beaucoup de théâtralité dans votre danse, puisque même par moments, moi, pour Andrea, il y a des moments où je me suis dit, mais est-ce que ce sont des danseurs ou est-ce que ce sont des acteurs ou des performeurs ?
Oui, parce que je viens de la danse, mais je ne dirais pas que je suis chorégraphe ou danseuse seulement. Bien sûr, c'est ma formation, mais ce que je trouve intéressant aussi dans d'autres artistes, c'est bien sûr, ils viennent d'une certaine tradition et ils ont peut-être leur perspective, elle est formée par cette discipline, mais ils voient le spectacle comme une opportunité de créer un monde, de créer un objet d'art qui a besoin de ce dont il a besoin. S'il a besoin de la voix, il faut faire venir un compositeur vocal. S'il a besoin de théâtralité, s'il a besoin de scénographie, s'il a besoin d'écriture ou... Je ne sais pas, je trouve ça très excitant parce que ça permet aussi à tout le monde de se dépasser perpétuellement et de sortir de sa discipline pour se confronter aussi encore et toujours à les choses qu'il ne maîtrise pas. Et c'est de là, pour moi, que naissent les plus intéressantes surprises artistiques pour moi-même et pour les autres. Et c'est de là que j'essaie de tirer un spectacle inattendu, un peu inattendu pour moi, parce que si je suis dans la danse et je vais faire une chorégraphie, je sais déjà plus ou moins à quoi ça va ressembler et je suis dès le début un peu ennuyée. Mais ça, c'est moi.
Dans Andrea, vous évoquez ce monde qui tombait. Et là, dans le faune, on sent une inspiration liée à l'avenir de l'environnement, de la nature. Est-ce qu'effectivement, vous puisez souvent votre inspiration dans ce que vous ressentez dans votre époque ?
Spécialement dans les dernières années, les spectacles viennent un peu, bien sûr, de la manière dont je me sens en ce moment. Pendant Andrea, je me suis sentie complètement bouleversée par les urgences dans le monde, pour le dire de manière très simple. Bouleversée et en même temps, je sentais cette demande envers moi d'avoir une opinion et de devoir me positionner très vite au sujet de chaque problème dans le monde, de devoir dire « Ah oui, ça c'est mon opinion, ça c'est pas mon opinion, je suis dans tel camp ou tel camp. » Et cette urgence de se positionner et en même temps ce désir de contrôler en fait tout ce qui se passe. Et maintenant, après la pandémie peut-être, mais je suis aussi avancée dans la vie, je ne sais pas, mais là pour moi, Empire, c'est vraiment, je voulais encapsuler comme un parfum cette sensation de cesser d'essayer de contrôler tout et de simplement laisser le cours aux choses et d'accepter aussi que peut-être la race humaine a heurté son potentiel, donc elle est à la fin de son potentiel de transformation. Peut-être qu'on ne peut pas éviter la crise, on ne peut pas faire autrement que faire la guerre, peut-être qu'on ne peut pas faire autrement que faire cette crise de l'environnement avancé, like we cannot stop it, peut-être parce qu'on n'est simplement pas capable de telle changement et ce désillusionnement avec notre potentiel en tant que créature. C'est un peu un enterrement de l'illusion que les humains puissent être merveilleux, miraculeux et se sauver soi-même. And peut-être que c'est aussi OK. Il faut vivre avec, peut-être. C'est cette question un peu qui m'a inspirée pour l'Empire.
Ce type de questions, vous voulez poser avec vos interprètes lorsque vous travaillez les pièces, lorsque vous répétez?
Oui, on parlait beaucoup de nos émotions par rapport à ça. Comme une grande inspiration, au début, on avait écouté l'opéra d'un compositeur russe qui s'appelle Yuri Khanon, qui m'inspire beaucoup. Il y a une grande symphonie dont une partie, pour moi, elle représente toute la pièce, en fait. C'est une symphonie qui est très relentless. Je ne sais pas en français.
Répétitive
et sans relâche. Elle est un peu violente, sans relâche, répétitive. Et les chanteurs en opéra, donc c'est très fort, avec beaucoup d'énergie, ils ne font que répéter « Oh, quelle horrible route, quelle longue et horrible route !» Et on marche, et on ne cesse de marcher, on est déjà si fatigué, mais on ne cesse de marcher, quelle horrible route. Et ils répètent dans les boucles, dans différentes versions, ce sentiment en fait, où il faut qu'on avance, mais on est très fatigué, mais qu'on avance quand même, et on ne sait pas vraiment pourquoi et comment, mais on avance, et la route est interminable. Et j'ai un peu l'impression que c'est ça, le futur, en fait, la condition de nous, des humains. Voilà, notre existence avec nos enfants et les enfants de nos enfants, tout continue jusqu'au moment où elle ne continuera pas. La route est interminable, inévitable, et en même temps, on continue. Et je me pose la question, voilà, comment je me ressens par rapport à ça? Parce que moi, je ne suis pas religieuse, so je n'ai pas de foi à laquelle je peux peut-être voir les choses autrement, donc je les vois vraiment dans cette perspective-là. Je ne dirais peut-être pas le mot nihilisme, il est un peu pour moi trop radical ou alors très chargé, mais quelque chose dans le genre de est-ce que je peux accepter plus le fait que je ne contrôle pas les choses et que les choses vont terminer et que je fais partie de cette chose qui est en train de se terminer ou pas parce que je ne sais pas. Est-ce que je peux être plus OK avec l'ambigu et l'incertain? Et là, on revient à l'incertitude.
Bien, à jeudi.
Oui, à jeudi. Merci beaucoup.